Alors, bienvenue au café de l'édition qu'on organise depuis quelques années pour donner la parole aux éditeurs et éditrices qui sont invités chaque année à Focus, puisque la question des écritures alternatives de la recherche en sciences humaines implique des espaces de publication. Nous invitons tous les ans des éditeurs et éditrices de revues et aussi de plus en plus de collections d'essais qui viennent nous présenter les revues, les livres qu'elles publient et leur ligne éditoriale. Alors, ça me semble important de prendre un temps de discussion avec LE, puisque Focus est aussi l'occasion de faire des liens entre le monde de la recherche et le monde des éditions. Alors là, nous avons des éditeuristes de maisons d'édition académiques et de maisons d'édition indépendantes. Ça nous semble important aussi qu'il y ait cette représentativité-là. Et le format que je vous propose aujourd'hui, c'est une heure de discussion autour de la question de la narration et de la narration du point de vue de l'éditeur ou de l'éditrice, comment on crée la forme qui accueille les narrations et les écritures alternatives de la recherche, et puis ensuite de prendre un café, plutôt que le temps de questions-réponses, d'aller prendre un café autour des stands et pour que vous puissiez toucher les livres, les ouvrir, les feuilleter, on répondra à vos questions à ce moment-là. Alors, je vais présenter nos invités dans l'ordre comme ça. Donc, Chloé Pathé, qui est fondatrice des éditions Anamosa, une maison d'édition indépendante qui est plutôt spécialisée sur les essais historiques. Tu nous en parleras, Chloé. Ensuite, à côté de toi, Camilo León Guirano, qui est anthropologue et photographe, chargé de recherche au CNRS. Alors, qui est plutôt là en tant qu'auteur. C'est le seul auteur de cette assemblée, le seul homme aussi. Voilà, vous êtes sûr, bienvenue.
Oui,
Ensuite, Céline Pévrier, qui est créatrice des éditions Sunsun, une maison d'édition indépendante aussi, et qui a publié Strata, un livre, dans lequel Camilo écrit. Ensuite, Nathalie Meyer, qui est éditrice de la collection Ethnologie de la France et des mondes contemporains au ministère de la Culture et en partenariat avec la NSH, et aussi de la revue In Situ. Alors, on va se concentrer plutôt aujourd'hui sur les essais, et demain, le café d'édition est consacré aux revues. Voilà. Donc, Nathalie, tu nous parleras plutôt de l'ethnographie de la France. Ethnologie de la France, pardon. Et pour finir ce tour, Valérie Robin-Azevedo, qui est anthropologue et qui est la directrice scientifique des éditions de l'Université Paris-Cité, qui est une jeune maison d'édition, et Anne Lecomte, qui est responsable éditoriale de cette maison d'édition. Alors, l'exercice qu'on s'est donné pour ce temps de discussion qui est assez court, et c'est, je sais que c'est compliqué, mais c'est de choisir un livre dont on va parler plus spécifiquement, qui n'épuisera pas évidemment la démarche de chacune des maisons, mais qui nous permet d'aborder de manière fine et précise et située la question de des écritures alternatives de la recherche et de la narration plus particulièrement. Alors, Chloé, est-ce que tu peux du coup commencer par nous parler du livre que tu as choisi, qui est paru très récemment, qui s'appelle « Le bleu du ciel » et on l'a choisi, c'est ça ?
Le lieu.
Pardon, le lieu du bleu, pas du tout. Désolé.
C'est pas toi.
Ça a à voir avec le ciel.
Oui, voilà, d'où ma confusion. Et que nous avons choisi notamment parce que c'est un livre qui a impliqué une réflexion, non seulement sur la narration, mais aussi une réflexion graphique et sur l'objet vraiment du livre. Avant de rentrer dans ce livre-là et présenter son autrice Anouchka Bazac, parce que ça, ça dit beaucoup aussi de la manière dont se construit un catalogue. En fait, Anouchka Bazac, c'est le deuxième livre qu'on fait avec elle. Le précédent s'appelait 1797 pour une histoire météore. Et elle m'a été présentée par Martin de la Soudière, qui est ethnologue, enfin qui était ethnologue, qui a disparu récemment, et qui avait, Martin, cette écriture très particulière de rendre compte de son terrain, qui est en gros l'ethnologie du dehors, et de ses terrains privilégiés, les Pyrénées, la Lozère, notamment en permanence dans ses écrits, un dialogue notamment avec la littérature, avec les paysagistes. Et c'est donc lui qui nous a présenté Anouchka, dont il était très proche. Et j'en parle parce que, en fait, tout ça a un lien. Anouchka, elle, est maîtresse de conférences en littérature, mais depuis des années, elle co-anime un séminaire qui s'appelle « Perception du climat », qui a été monté au départ à l'EHESS et qui est abrité, je crois, maintenant à l'ENS. Donc elle vient de la littérature et elle s'est plongée depuis des années dans les sciences, d'une part, et dans la géographie, d'autre part. Donc, tous les deux, donnent corps dans leur écriture et ce qui en donne, enfin, des écritures très particulières, à la pluridisciplinarité au sein même d'un texte. Donc ça me semblait important parce que comment un livre en suscite un autre, c'est parce qu'on a accueilli les textes de Martin aussi que Anouchka est venue nous voir. Et un catalogue, ça se construit aussi comme des nébuleuses qui s'enrichissent, des fils qu'on tire. Voilà. Et alors j'en viens à ce lieu du bleu. Qui est Anouchka nous avait dit il y a 4 ans, j'ai relu un poème de Ponge qui s'appelle L'Ammonine, qui est dans le recueil La rage de l'expression. Alors L'Ammonine, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a une calanque qui s'appelle L'Ammonine, mais c'est pas cette calanque en l'occurrence, c'est un lieu dit près de Bouc-Bélair, donc c'est pas loin non plus. Et c'est exactement sur la ligne de car 51, enfin elle existe cette ligne, on en parle, où en 41, Ponge est dans ce car et il est saisi, je fais très court, d'une émotion à la vue du ciel. Et donc L'Ammonine, qui est un des poèmes les plus importants de Ponge, et une tentative de décrire cette couleur tout en disant, enfin Éponge s'en revendiquait, et c'est pour ça que je trouve que ça a beaucoup de lien ici, qu'il voulait faire une poésie scientifique. Donc tout part de là, pour Anouchka Bazac, c'est le point de départ, c'est Éponge, et elle nous dit j'ai envie d'enquêter. Donc la manière dont petit à petit, au fil des discussions, l'ouvrage s'est construit, on est en trois parties. On est français, on se refait pas. Il y a d'abord un dialogue, en quelque sorte, avec les mots même, les mots même de Ponge, l'époque à laquelle évidemment il écrit. Ensuite, il y a une enquête que je dirais esthétique et scientifique, où elle interroge tous les questionnements qu'il peut y avoir, alors dans l'art et dans les sciences, sur la définition du bleu, avec parfois des expériences scientifiques
écrites qui sont très drôles. Enfin, il existe des cyanomètres qui ont été mis en place. Et la troisième partie, justement, là, très inspirée par la démarche de Martin de la Soudière, qui se définissait comme un ethnopoète et un arpenteur de paysages, elle va sur le terrain. Donc, elle prend cette fameuse ligne de car plusieurs fois. Elle a sa belle-fille qui emprunte cette ligne de car. Donc, il y a tout un tas de photos qui sont faites à des heures différentes. Sauf que ce que fait Anouchka et que n'avait pas fait Plonge, elle descend du car à Bouc-Bel-Air. Et donc là, c'est aussi décrire les lieux, voir ce qui reste chez les habitants de ce poème et de cette Mounine qui a disparu, parce que Mounine, ça veut dire guenon, et en fait il y avait une statue de guenon. Ben, j'ai oublié quelle était la boutique avant que ça devienne un garage. Bon, la statue a été volée. Ils vont visiblement en remettre une. Donc c'est interroger aussi la mémoire des lieux qui sans doute à l'époque de Plonge étaient beaucoup plus ressemblaient beaucoup plus à de la campagne et qui sont aujourd'hui, voilà, on est entre Aix et Marseille, des zones pavillonnaires. Et pour finir sur la forme, donc il y avait ce texte qui est vraiment une démarche très particulière et qui mêle plein d'approches. Elle avait rassemblé à Anouchka tout un tas de matériaux iconographiques. On aurait pu faire un tout autre livre, notamment avec toutes ces photos à différentes saisons, différents jours. Alors elle a essayé à chaque fois de passer à la même heure que Plonge quand il y est passé. Mais en même temps, on se demandait si c'était utile. Et en fait, on a fait un choix avec les graphistes. C'est un studio qui s'appelle, un duo de graphistes qui s'appelle Elmo. Finalement, de mettre très peu d'iconos, mais d'essayer de faire vivre une expérience du bleu. Alors la couverture est composée de quatre pantones bleus différents. Le livre, alors ça, donc je l'ai fait, hein, est imprimé en bleu. Et finalement, les scansions du texte, on pourra aller voir après, ce sont des pages bleues avec quelques mots extraits du poème en question, La Mounine. On a gardé quelques illustrations comme ça, mais... Parce que finalement, à la fin, et là je spoil rien, c'est est-ce qu'on peut saisir le bleu du ciel ? Donc on reste dans une forme d'abstraction, et ça nous semblait plus intéressant comme expérience de lecture et graphique, de finalement ne pas illustrer et de laisser les lecteurs et les lectrices expérimenter le bleu avec leurs yeux. Et peut-être aller lire Plonge et aller sur place. On aurait dû organiser un convoi, une expédition sur la ligne de 51.
Merci Chloé. Ce que j'ai trouvé intéressant à la lecture, c'est que déjà il y a vraiment un tissage de registres très très différents qui cohabitent très bien entre de l'analyse de textes littéraires, entre de l'ethnographie, entre... de l'enquête dans l'histoire des sciences voilà. Et elle dit, l'autrice, elle dit un moment, elle dit c'est ce livre de point un essai, et alors vraiment ça permet de redéfinir, enfin, en tout cas de revisiter la question de ce que c'est un essai en sciences humaines, là vraiment au sens de tentative, d'expérimentation.
Oui, et c'est vrai qu'il est très particulier en ça, et alors ça tient aussi à sa personnalité, Anouchka Vazak, qui est tout le temps entre plusieurs disciplines. Et effectivement, là, elle est, elle est encore, il est achevé, le livre, il fallait l'achever, mais encore dans l'interrogation. Et là, je crois que l'écriture pour elle est venue finalement relativement facilement à la fin, parce qu'elle a passé tellement de temps à décrypter le poème et à aller sur place, et qu'à partir du moment où on lui a dit donne-toi 6 mois, cet essai d'écriture, il est venu d'elle, on n'a pas eu à réaménager trop et à la pousser trop dans une discussion. Et c'est aussi une réflexion, comme tu le dis, sur justement qu'est-ce qu'écrire un essai.
Merci Chloé, on y reviendra. Alors maintenant, on va parler de Strata, qui est un livre qui est très lié à, pas très, mais en tout cas qui a à voir avec Focus et surtout avec la fabrique des écritures ethnographiques ici à Marseille, puisque la plupart des auteurs, autoristes se sont connectés dans cet endroit. Alors là, vous verrez que c'est un essai, on va dire, un peu culinaire, enfin, vous employez une métaphore culinaire, parlant de bouillabaisse ethnographique. Alors voilà, j'aimerais que vous dépliez un petit peu cette idée-là, ce concept, je ne sais pas si c'est un concept, mais en tout cas, voilà, c'est un essai, j'ai l'impression. Et puis Céline, qu'est-ce qui t'a intéressée en tant qu'éditrice dans le fait de publier ce projet, qui est donc un ouvrage collectif, essentiellement un ouvrage visuel, avec un découpage aussi texte-image qui est assez, assez singulier, pas une écriture linéaire, une sorte d'abécédaire à la fin, de lexique plutôt, que j'ai trouvé passionnant, avec plein de ressources méthodologiques justement pour s'outiller, pour repenser qu'est-ce que c'est l'enquête ethnographique. Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
Strata, en fait, quand l'équipe m'a contacté les éditions Sunsun, Strata, c'est le parfait terrain de jeu pour la maison d'édition qui s'intéresse aux formes hybrides, qui, à mon sens, représentent les zones les plus fertiles, hybrides par les différentes grammaires, les différents univers, les différents médiums. Et là, quand ils m'ont contacté, moi, je suis plutôt éditrice de photographie, phototexte, texte en regard d'archives. Donc on est toujours dans ces zones des entre-deux. Et l'équipe de Strata est composée de chercheurs, anthropologues, c'est l'anthropologie visuelle, avec une mission bien particulière, c'était de traduire en livre leurs 6 films.
Oui.
Ce qui est assez...
Oui, j'ai pas mentionné ça, mais c'est un vrai défi.
Qui était peu banal. Et donc, matière audiovisuelle principalement.
Photo.
Oui, photographie, dessin, bon, spectrogramme. 6 terrains d'enquête très hétérogènes. 6 personnalités très différentes. Un court timing, 4-5 mois. Et puis, il en fallait pas plus pour embarquer. Parce qu'il y avait aussi cette liberté d'inventer avec tous les écueils possibles, mais en même temps de faire émerger une grammaire qui leur soit propre. Donc c'était comment arriver à écouter leurs demandes au pluriel, leurs besoins, proposer aux côtés de... l'agence graphique avec laquelle je travaille, Typical, basée à Athènes, c'était comment traduire leur désir tout en... Cette traduction, c'était à la fois un accouchement, c'est-à-dire qu'ils savaient
pas trop ce qu'ils voulaient, juste qu'ils voulaient inventer ensemble et qu'il n'y ait pas de démarcation nette d'un projet à un autre. Et donc, c'est ce qui nous a occupé aussi dans ce livre, c'est comment est-ce qu'on le rend à la fois... lisible, que chacun ait quand même sa partie, mais que ça puisse tuiler d'un monde à un autre. Donc
travailler à nouveau comment est-ce qu'on traduit ces zones de porosité.
Et peut-être pour continuer un peu dans ce que tu es en train de dire, ce qui était important pour nous, et du coup l'idée de bouillabaisse ethnographique, c'est aussi un positionnement épistémologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue un objet d'expression de la recherche aujourd'hui en sciences sociales, et souvent un livre collectif est basé en chapitres assez définis avec un auteur, une autrice par chapitre, et en fait on voulait aussi casser un petit peu ça, on voulait mettre ensemble les matériaux venus des 6 enquêtes ethnographiques différentes. Moi je suis l'un des auteurs, il y a 5 autres autrices et auteurs, Daniela Rodriguez, Aurélie Darbouret, Jeff Silva, Petnandalico, désolé je lui toujours le
Coton
de l'eau, ouais. Et Laurent Van Lanker, et ce projet du coup naît effectivement, comme tu l'as expliqué, hein, dans un espace particulier, Marseille, parce que c'est le lieu où on s'est rencontrés, souvent dans des cadres professionnels. Il y a encore la chaire d'excellence AMIDEX, Alternative Narrative Forms in Audiovisual Anthropology, ANFA, qui était porteuse du projet, qui est porté par Laurent Van Lanker, et qui a soutenu aussi la production du livre. Et c'est à la Fabrique des Écritures et grâce à cette chaire-là qui a la volonté de questionner les structures narratives, les formes narratives en anthropologie, qu'on s'est dit en fait il faut qu'on questionne à la fois le statut d'autrice, d'auteur, la manière dont nos matériaux vont dialoguer ensemble. Et c'est là qu'est l'idée de bouillabaisse ethnographique est née. Bouillabaisse qui s'est concoctée quand même pendant 4-5 mois d'intense travail avec Sunson, avec aussi l'équipe de graphistes qui étaient... Enfin, les trois, on était vraiment porteurs d'un travail qui a transformé l'objet. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui arrive assez peu souvent dans des éditions scientifiques. Moi, j'en connais un peu. Et c'est vrai que la possibilité de travailler avec une éditrice indépendante nous permettait aussi de prendre des risques, de sortir aussi du marché qui souvent limite beaucoup d'expérimentation graphique dans le domaine scientifique. Et c'était une chance pour justement proposer un livre qui est porté par les images et pas par le texte. Donc on a des photos, on a du film, et une chose très importante, c'est un livre multimodal. Il y a un site web qui s'appelle stratabook.net dans lequel on a déposé aussi tous les matériaux filmiques qui sont associés à ce travail. Donc c'est un bouquin qui se veut à la fois un bouquin qu'on peut voir, qu'on peut lire à la fin, parce qu'on a décidé de déposer la plupart des textes à la fin du livre, mais qui peut aussi s'écouter, se regarder sur Internet. Donc c'était un peu cette volonté de bouillabaisse des différents matériaux qui apportait le projet. Et on a eu la chance de travailler avec une équipe qui nous a permis ça aussi, de penser à un objet différent, un objet... expérimental qui essaye quand même de repousser les limites de ce qu'on peut faire en anthropologie.
Et dans le lexique, il y a des termes. C'est-à-dire que le lexique, il a un enjeu, c'est un peu ce que je disais déjà, mais méthodologique, un peu méta, un peu d'espace de réflexivité sur la production des savoirs et les méthodologies de l'ethnographie. Et il y a il y a plein de références croisées. Il y a par exemple une entrée qui s'appelle plateau, une entrée qui s'appelle narration spéculative. Qu'est-ce qui a présidé au choix en fait de ces catégories? Est-ce que c'était un choix collectif? Est-ce que chacune y venait de sa contribution? Et quel est l'enjeu de ce lexique qui vient compléter les images?
L'idée, c'était effectivement, encore une fois, de déstructurer la manière de participer collectivement à cet ouvrage. Du coup, effectivement, chacune et chacun a ramené des définitions, liste des définitions. À la fin, on les a mis ensemble et on s'est mis d'accord, effectivement, sur lesquelles il n'y aurait aussi pas de répétition entre certaines d'entre elles. Et on s'est dit, en fait, au lieu de mettre chaque définition, parce qu'à la fin, il y a un glossaire, en fait, avec une série de définitions, dont bouillabaisse ethnographique, mais aussi bien d'autres. On s'est dit que le plus intéressant, c'était de les mettre ensemble à la fin pour justement essayer de décomposer, de déconstruire et donner aussi un glossaire qui puisse s'appliquer aussi aux autres terrains. Puisque d'une certaine manière, même si les terrains sont très divers, il peut y avoir des ponts de passage entre les différents récits.
Oui, j'ai à peine complété parce que c'est très précis ce que tu dis. En fait, quand on posait la question de faut-il séparer chaque terrain à chaque auteur, on a décidé que oui, mais il y a des endroits qui tuilent. Et à l'endroit du glossaire, ce sont, comme vient de dire Camilo, regrouper les notions qui sont en fait leurs outils de travail à chacun et qui permettent en fait de relire le livre. C'est vraiment l'endroit qui rassemble leurs outils pour donner des outils au lecteur afin de traverser leur ouvrage.
Oui, ça marche bien, c'est comme ça que j'ai fait l'expérience d'aller-retour. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Nathalie, alors, toi, tu es éditrice, alors, dans une, pour le coup, une collection académique, avec du coup un système de sélection, relecture des projets qui est très différent, pas très différent, qui est différent, et en même temps une volonté de ne pas adresser les ouvrages qu'à des pairs et donc des ouvrages qui sont pensés sur la narration, l'enjeu narratif et la forme dans une, on va dire, une générosité pour s'adresser à un public plus large. Alors là, tu as choisi de nous parler du dernier essai paru, qui nous intéresse pour la question des écritures alternatives de la recherche, parce qu'il a une dimension très théâtrale dans ce projet, et du coup des choix narratifs et de mise en page qui soutiennent en fait cette narration.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, je précise que la collection Ethnologie de la France et des mondes contemporains, qui s'appelait d'abord Ethnologie de la France, a été créée par Christine Langlois, qui a disparu l'année dernière, et qui est aussi l'éditrice de terrain. Donc, je tenais quand même à lui rendre hommage. Et donc cette collection, qui est une collection en effet académique, là c'est l'ouvrage de Pia Torregrossa, chercheuse au Cantel, docteur en anthropologie. Et le 70e à peu près titre. Il s'agit d'anthropologie menée dans le terrain, donc la salle de vente. Le terrain était assez sensible, puisqu'il faut être accepté dans le public. Il faut être accepté par les commissaires-priseurs, par les collectionneurs, par les vendeurs, par les acheteurs, pour pouvoir faire cette recherche et également pour pouvoir l'illustrer. Donc ça, c'est un problème qu'on a rencontré, mais que Dorine Bertrand, ma collègue iconographe, a surmonté. Mais en fait, donc, il est très difficile de trouver des images intéressantes d'enchères, puisque les vendeurs ne veulent pas être photographiés, l'acheteur ne veut pas être photographié, il n'y a que le commissaire-priseur et encore qui accepte que son image soit divulguée. Donc là, c'était un premier point sensible. Dans l'enquête également, il y a eu des choses sensibles, c'est que les propos tenus par les uns et les autres ne sont pas forcément ni en l'honneur de la profession de commissaire-priseur ou d'expert, pas toujours, celui du vendeur qui se débarrasse d'un objet, du moins vend un objet, soit par passion, soit par mépris de l'objet ou mauvais souvenir. Il y a énormément de... Donc elle a mené des entretiens, une trentaine d'entretiens qualitatifs, où les personnes expliquent les raisons pour lesquelles elles vendent des objets qui peuvent leur rappeler un passé douloureux. Donc ça se lit vraiment comme un roman et c'est construit en trois parties, caractéristiques qu'on a du mal dans les derniers ouvrages, on retrouve cette structure, mais là, les trois parties sont contrebalancées par une sorte de chapitre central qui est un arrêt sur image sur une vente qui s'est déroulée à Lyon, où réellement, à la manière d'un récit dialogué, où le commissaire je pourrais lire un extrait, mais je ne le ferai pas. Voilà, parce que je vous le laisserai le lire vous-même. Donc, il y a vraiment l'auteur cède la parole, s'efface assez souvent derrière les échanges auxquels elle assiste et montre en quoi il s'agit d'une scène. Donc là aussi, l'auteur montre qu'on est sur un théâtre sa référence principale est les travaux, le monde de l'art, de Howard Baker. Donc elle montre comment tout ça c'est du jeu et que la distribution des rôles est donnée, comment il y a une temporalité très précise qu'on retrouve dans la dénomination des titres de l'ouvrage qui commence par, levée de rideau sur les enchères, coup de marteau, qu'on retrouve dans le lexique des enchères. Et donc je peux que... Donc pour la collection elle-même, on peut relier ce livre au livre de Delphine Blanc sur l'accord parfait, puisque là aussi il s'agit de spectacle. Donc c'est comment, puisque l'accord parfait c'est écrit par une altiste qui fait une anthropologie participante sur son milieu, donc elle va décrire vraiment comment fonctionne un orchestre de musique classique. Et on retrouve un petit peu cette même approche du lecteur, parce que ce sont des milieux où on s'adresse aux personnes, où on est sur scène. Je ne sais pas si j'ai été trop courte.
Non, très bien, très bien. J'aimerais te demander comment est-ce que tu travailles ces textes en tant qu'éditrice? Et est-ce que il faut, je dirais, plutôt pousser ou tirer pour aller vers, parfois accentuer la dimension narrative. Comment on tient cet équilibre entre l'enjeu théorique du projet et sa mise en récit, spécifiquement dans cette collection?
Alors, dans cette collection, alors, c'est pas absolument évident de répondre comme ça, puisque on a quand même des livres qui sont publiés l'accord d'un comité de lecture, après des lectures d'évaluateurs spécialistes des sujets. Et ensuite, une fois que scientifiquement le texte est figé, qui répond aux demandes, parce qu'il y a quand même toutes ces demandes scientifiques que... Alors, bien sûr, moi, je peux vérifier que ça a été fait, mais je peux aussi me dire, là, il y a une grande partie sur le... Bon, c'était le cas. Il y a une grande partie sur la teneur juridique des enchères ou sur l'histoire des enchères. Donc là aussi, on essaye de cadrer et on peut avoir des suggestions de références à des ouvrages... qu'on ne voit pas forcément figurer. Enfin, là, ça a été une grande question, je dirais, éditoriale. C'est de l'ethno, mais on aborde des sujets périphériques. Donc, on ne peut pas Donc, ça a été une des questions. Et après, en effet, sur la présence des dialogues, là, on a choisi un style donc un peu théâtral, avec les petites capes traditionnelles. Et on a essayé d'équilibrer. C'est un livre où il y a quand même beaucoup de verbatim. Donc on a essayé de le répartir de façon à ce qu'on tombe sur un équilibre. Même chose, on retrouve au début, à l'introduction et en conclusion, on a aussi de longs extraits de scènes. Donc là, on a privilégié en effet l'effacement de l'auteur pour à certains endroits bien répartis. L'effacement de l'auteur pour privilégier donc l'arrêt sur image. Et après, évidemment, sur les verbatims les plus petits, elle dialogue et elle analyse en fonction de ce que ces interviewés disent. Et répartit donc. Voilà, on veille à l'équilibre.
Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant des éditions de l'Université Paris Cité. Euh,
je retrouve où j'en suis. Et donc, oui, d'un livre en particulier, dont vous m'avez dit, voilà, lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde, d'une chercheuse qui s'appelle Pinar Selek, et qui a un livre donc, qui est très représentatif des enjeux et de l'expérimentation des écritures alternatives de la recherche, tout en étant, vous m'avez dit, un peu un point, voilà, un point où vous êtes allé assez loin dans cette démarche pour cet ouvrage en particulier. Donc un ouvrage en fait qui revient sur un traumatisme personnel, son arrestation en 98, la perte de tous ses matériaux de terrain et d'enquête, la destruction de ses matériaux, et la torture, et voilà, et elle écrit à partir de ce vide en fait et de ce traumatisme dans une reconstitution des traces mémorielles en fait d'un terrain et des matériaux d'enquête. Alors, c'est un texte qui alterne en effet entre une plongée vraiment dans l'intimité d'une expérience tragique et traumatisante, et puis au fond, ce qui persiste de l'enquête, est-ce qu'il en reste, est-ce qu'elle peut en dire encore aujourd'hui, et voilà, et du coup c'est un texte très fort, je trouve, et dont je suis en train de parler, mais c'est mieux si vous en parlez vous.
C'est parfait, merci de pitcher ce livre.
voilà, et puis aussi du coup nous présenter un peu plus largement cette maison d'édition, dont c'était la première venue à Focus cette année.
Merci beaucoup de nous avoir invités, en effet. On est ravis d'être là. On est surtout ravis d'être sur ce panel avec ces autres maisons d'édition, puisque ce que vous avez dit sur vos ouvrages, ça fait que ce soit l'exploration, que ce soit la créativité, que ce soit l'envie de mêler, de croiser les regards, de mêler les disciplines, de mêler les façons de faire. C'est ce qui nous a préoccupés depuis 2023, où en fait on a commencé à réfléchir à cette maison d'édition, qui est donc une maison d'édition universitaire. Ce sont les éditions de l'université Paris-Cité, qui est une université qui se trouve à Paris, comme son nom l'indique, mais qui n'avait pas de maison d'édition, qui n'avait pas donc de presse universitaire, et qui s'est intéressée à la question et qui nous a confié avec Valérie Robin-Azevedo et moi-même le dossier. Et qui a fini par réémerger en septembre 2025. Le projet qu'on a devisé à l'Université Paris-Cité, parce que, je vais essayer de faire très très vite, je me rends compte que ça pourrait être très long, parce que c'était un projet qu'on a devisé en 2023, 2024, 2025, on a décidé aussi de réfléchir à comment on pourrait le faire, d'une façon pour qu'il se démarque un petit peu de toutes les presses universitaires qui existent, et aussi de quelle façon notre maison d'édition, les collections, les ouvrages qu'on publierait, comment aussi ils peuvent être en phase avec l'époque dans laquelle on vit. Donc ça a vraiment guidé notre démarche, et donc à la fin, ce sur quoi ça a débouché sur une première collection qui s'appelle la collection Démêlée, qui sont des petits livres, voilà, ce qu'on appelle semi-poche, c'est quand même proche d'un format poche, des livres courts, et des livres écrits sur mesure avec des auteurs et des autrices qui sont toujours des chercheurs et des chercheuses, puisque en tant que presse universitaire, nous ne publions que la recherche, et donc les auteurs et les autrices de la recherche. Et donc ce sont des livres écrits sur mesure avec des personnes qu'on leur démarche ou qui nous démarchent, qui ont publié des recherches ou qui sont en train d'achever une recherche sur leur sujet. Anthropologie, sociologie, psychologie, littérature, ça peut être toutes les sciences humaines et sociales, et même quelques disciplines en dehors des sciences humaines et sociales. Et on discute ensemble à quoi peut ressembler le livre, quelle forme il peut prendre. Souvent, ça ne va, même principalement, ça ne va pas prendre une forme de plan en trois parties. comment on peut amener la recherche au grand public, puisque le grand public c'est le public de cette collection. Et donc, on va travailler la narration. On va ensemble déconstruire la façon dont ils ont toujours écrit dans l'écriture académique, dans les articles, dans les contributions. Et on va s'intéresser à comment on raconte. C'est quoi une histoire ? La recherche, elle peut se raconter, et vous pouvez la raconter. toujours avoir en tête l'adresse, le lecteur, la lectrice à laquelle, auquel on s'adresse, mais aussi le fil de la narration. Voilà, je vais m'arrêter sur cette collection. Elle a une petite forme, elle a une fabrication un peu particulière, puisque il y a une, chaque livre a une illustration sur mesure. On travaille avec un illustrateur ou une illustratrice indépendante, souvent différent pour chaque ouvrage, qui va réfléchir au texte, au sujet, qui va proposer quelque chose sur mesure. Donc, pour Pinard, Valérie va vous en parler, mais ça a été fait dans cette optique-là. Et puis, on a aussi toujours un prologue narratif qui ouvre les livres. Les livres ne s'ouvrent pas sur une introduction ou sur un avant-propos, voilà. Ils s'ouvrent toujours sur une scène. Une scène qui est comme une espèce de, d'exercice d'écriture qu'on demande aux chercheurs ou aux chercheuses, que ce soit une scène de polar, que ce soit une scène de théâtre, que ce soit une scène poétique, que ce soit comme le livre de Pinard, d'un seul coup, voilà, un texte très poétique sur la souffrance et sur le retour sur soi-même. On veut toujours que le livre ne commence pas tout de suite par la théorie et le sujet de l'enquête, mais plutôt une scène pour plonger, pour faire une expérience d'immersion et de plonger voilà, dans le sujet. Et pour terminer, pour laisser la parole à Valérie qui va vous parler du livre de Pinard, donc on s'est lancé en septembre 2025 avec cette collection qui s'appelle Démêlée. Ensuite, en novembre dernier, on a lancé une autre collection de livres de photographie voilà, qui s'intéresse notamment au patrimoine visuel. Cette collection, elle s'appelle Longue Vue. Donc on a cette collection de beaux livres qui est notre deuxième collection. On va publier deux livres d'ailleurs cette année dans cette nouvelle collection. Et puis, on publie aussi à la rentrée notre premier texte de médiation slash vulgarisation en sciences, qui s'appellera « Dans la tête d'un platiste quand les idées ne tournent plus rond », qui est un astrophysicien qui se colle à la question. Voilà, et d'autres projets. Comme ça ne fait pas un an qu'on existe, on essaye aussi d'avoir une production un peu raisonnée. Et je m'arrête.
Merci beaucoup et merci pour cette invitation. On est ravis de pouvoir être là et de partager effectivement voilà, notre jeune catalogue. Donc par rapport à Pinard Sélègue, effectivement c'est un essai tout à fait singulier, on va dire, et particulier parce que c'est à la fois, en fait il y a plusieurs histoires en une. Et puis c'est effectivement un essai qui est à la fois un récit autobiographique où en fait elle va essayer de puiser au fond du puits de sa mémoire précisément. Et donc il y a le récit de Pinard Sélègue aujourd'hui qui rédige, mais il y a aussi l'histoire de qu'elle arrive à faire ressusciter de cette Pinard d'il y a 30 ans qui était la jeune étudiante et qui, où elle restitue la reconstruction en fait de ses notes de carnet de terrain. Donc bien sûr c'est dans le texte écrit en italique du coup pour qu'on distingue en fait les différentes couches temporelles aussi, avec aussi la tentative de reconstruire et de ressusciter en fait les verbatims aussi des échanges qu'elle a eu et des entretiens qu'elle a eu avec donc ses enquêtés, puisque en fait Pinard Sélègue a commencé une recherche sur le monde kurde et précisément dans le contexte de la guerre avec l'État turc, précisément, elle a été perçue comme une alliée de la cause kurde et donc une ennemie, ce qui explique donc qu'elle ait été incarcérée, torturée, mais aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel elle n'avait pas encore réfléchi vraiment au prix de front, elle a été séquestrée, mais sa recherche aussi. Et donc, on n'a pas trois parties, on a deux parties, effectivement, avec voilà, un texte de 10 chapitres, plutôt court. Et donc, dans toute cette première partie, en fait, il y a tout un travail aussi, il y a tout un mouvement, en fait, pendulaire entre le passé et le présent hein, dans l'écriture, et où donc elle essaye de restituer donc à la fois sa recherche, mais du coup elle fait revivre en fait finalement l'histoire du peuple kurde, l'histoire de sa lutte, l'histoire de sa résistance aussi. Et donc c'est à la fois ressusciter donc cette ethnographie qui a disparu puisqu'on lui a confisqué en fait ses matériaux au moment de son arrestation. Et puis dans la deuxième partie en fait, elle évoque à la fois donc ce moment très difficile, hein, et bon ça s'appelle Depuis le gouffre, hein, avec cette idée que D'abord, on puise au fond du puits, puis ensuite, on revient sur ces moments les plus difficiles et les plus difficiles à dire aussi, et comment on dit, tout en étant un exercice difficile parce que c'est à la fois douloureux et un exercice aussi pudique. Pas tomber dans une espèce de pornographie de la violence, mais pour autant arriver à... Donc là, la question des affects, de l'émotion est très fort, et dans son écriture, ça se ressent aussi. Mais c'est aussi une deuxième partie qui, en fait, n'est pas juste là pour évoquer la torture, mais précisément pour montrer comment on se répare. Et comment on se répare, c'est aussi en ressuscitant la recherche, et en la redonnant au moins les bribes de ce que l'on a pu reconstruire, et donc en l'exposant ici. Et c'est aussi une manière donc de penser, avec un E, mais penser aussi ces blessures, non seulement les siennes, celles de la jeune étudiante, mais aussi celles de la chercheuse, et aussi celle du peuple kurde. Et donc, c'est aussi une forme de réparation. Et c'est un peu ça aussi, cet ouvrage, comment on évolue dans le texte par ce processus un peu d'anamnèse, mais qui vient quelque part aussi guérir, et qui est aussi, enfin, dernière cape qu'on pourrait voir, une ode, finalement, à la liberté académique et à la nécessité aussi de protéger la parole aussi des chercheurs menacés. Que ce soit en contexte autoritaire, mais même aussi chez nous, en contexte démocratique menacé.
Merci. Alors, on va bientôt aller prendre un café, voilà, perspective réjouissante. Mais avant cela, est-ce que les autres, vous avez envie de rebondir, compléter par rapport à ce que vos collègues ont dit ? Éventuellement. Ok, pas vraiment, tout le monde a envie d'aller prendre un café. D'accord.
Je pense que les gens veulent leur café.
Ok. Merci beaucoup. Ce que je trouve très intéressant là dans vos témoignages sur les ouvrages, c'est qu'on voit en fait une diversité de manières d'éditer les écritures alternatives de la recherche avec des enjeux qui cohabitent et qu'on essaie de tenir ensemble à focus, qui sont à la fois des enjeux épistémologiques, méthodologiques, et comment ces écritures elles soutiennent d'autres manières de faire de la recherche et d'enquêter, et aussi des enjeux de diffusion de la recherche qui impliquent de la narration, qui impliquent des écritures non destinées uniquement au père. Voilà. Et donc on a un peu des exemples différents de ces essais finalement. Voilà.